L'évangile d'aujourd'hui nous confirme dans ce qui a été le fil rouge de l'enseignement de la dernière fois, c'est-à-dire c'est Dieu qui sème, c'est Dieu qui parle, et la semence, c'est son Fils. Et il sème sans cesse, puisqu'il fait briller sa lumière sans cesse. Fait briller sa lumière en envoyant son Fils dans le monde. Et son Fils ne cesse d'être envoyé dans le monde à travers son Église, de manière particulière, mais aussi il ne cesse de venir au-devant de tout homme pour l'éclairer. Écoutez l'Évangile. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père, littéralement, quiconque ayant entendu et appris du Père, la Bible de Jérusalem dit, quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école, c'est bien ça, hein, ayant entendu et appris du Père, vient à moi. Ici, vous voyez, on pourrait interpréter à différents niveaux, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a dans le monde beaucoup de personnes qui entendent de Dieu, qui se laissent instruire par Dieu, qui sont enseignés par Dieu, sans encore connaître explicitement Jésus. Alors, c'est pour ça que le Seigneur dit à saint Paul, à un moment, quand il rentre dans la ville de Corinthe, j'ai dans cette ville de nombreuses personnes qui m'appartiennent. Elles appartiennent déjà au Christ parce qu'elles appartiennent à la vérité. Quiconque est de la vérité, dit Jésus, entend ma voix. Dit ça à Pilate. Donc, quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école, vient à moi. On pourrait dire ici qu'il vient à Jésus quand il entend parler de Jésus, en vérité. On trouve comme ça des personnes, par exemple, d'origine musulmane, d'origine juive, qui, d'une manière très simple, quand pour la première fois elles ont un authentique témoignage du Christ, sont spontanément attirées par lui. Et en fait, j'ai envie de dire, elles ont toujours, oui, appartenu au Christ sans le savoir. Pour certaines d'entre elles. Donc, quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi, on pourrait le comprendre comme ça. On peut dire aussi que quiconque se laisse enseigner dans son cœur, laisse tomber la semence dans son cœur, comme la bonne terre, bien chemine vers le Christ, même s'il ne sait pas qu'il chemine vers le Christ. Et donc, nous avions vu la dernière fois que le problème n'est pas du côté de Dieu, puisqu'il n'arrête pas de semer et à tout vent, mais du côté de la réception. Dieu s'offre continuellement à nous en se communiquant continuellement à nous. Il se révèle pour se donner. Il parle d'abord, et ensuite c'est lui-même qui se donne. C'est comme pour la messe, hein, on entend d'abord la liturgie de la parole, puis ensuite c'est le don substantiel. Mais Dieu commence toujours par parler. Parce qu'en parlant, il nous laisse libres de l'accueillir ou non. On répond à une parole. Là que notre liberté s'exerce. Et donc, au niveau de la réception, vous voyez, disons plutôt la réceptivité première, dans notre vie sera toujours celle de l'écoute. Avant, celle du voir. On a des yeux pour voir, on peut les fermer, on peut les ouvrir. Mais l'oreille, ça a quelque chose de premier. Évidemment, ici, je vais vous parler des yeux du cœur et de l'oreille du cœur. Mais même au niveau physiologique, vous voyez, c'est le père Thomas Philippe qui aimait insister sur le fait que le premier organe qui se forme, c'est pas la bouche, c'est pas le nez, c'est pas les yeux, c'est l'oreille. Et vous savez que dans la traduction grecque de ce passage qui est cité dans l'Épître aux Hébreux à propos du Christ, puisqu'il est dit, c'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Ça, c'est la Septante, hein, c'est la traduction grecque du texte hébreu que Saint Paul utilise, enfin, plutôt qu'un disciple de Saint Paul utilise, je pense que c'est Barnabé, pour exprimer le oui du Christ entrant dans le monde, le oui du Fils à son Père. Et si on regarde le texte hébreu, tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné une oreille. Voyez, grâce au portable, nous nous rendons compte de l'importance de l'oreille. Voyez, tu m'as façonné une oreille. Alors j'ai dit, voici, je viens. Voyez la liberté qui s'exerce à partir de l'écoute. Dieu parle, je réponds, je suis responsable face à une parole, parce qu'il m'a façonné une oreille. Et à partir de là, je peux exercer ma liberté, donc sur fond de réceptivité. J'écoute et je réponds. Voici, je viens. Donc Jésus lui-même, il a voulu avoir un cœur d'homme, des oreilles humaines et l'oreille du cœur humain pour pouvoir exercer cette liberté durant toute sa vie comme réponse au Père. Je ne parle pas de moi-même, mais ce que je le dis selon ce que j'entends du Père. Donc, pensons que quand nous écoutons aussi dans le Christ. Le Christ est à la fois celui qui est semé, la parole qui nous est adressée, et celui qui écoute, quelque part. Le premier à écouter, c'est le Fils. On peut dire qu'il écoute éternellement le Père, comme Fils bien-aimé, éternel, mais il a aussi donc écouté dans son humanité. Mais je ne pense pas qu'il faille dire pour autant que la bonne terre dans l'évangile, c'est Jésus. Je pense qu'il vaut mieux se limiter à penser qu'il est la semence, pour pas trop compliquer les images. Voyez. Mais le Christ n'est pas simplement celui que nous écoutons, mais celui par lequel nous écoutons. Puisque c'est lui qui nous fait devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire capable d'écouter. D'écouter avec le cœur. Et donc, j'insiste pour dire que c'est cette écoute du cœur qui est notre première manière, en réalité, d'être actif. Parce que notre première activité, c'est d'être passif. Et il ne faut pas penser que cette passivité soit quelque chose donc d'inactif. Écouter, c'est Donc se laisser instruire, se laisser toucher, accueillir, c'est quelque chose qui mobilise une liberté profonde en nous, que certains philosophes appellent la liberté de consentement, en la distinguant de la liberté d'efficacité, liberté de faire. Mais avant d'avoir une liberté de faire, une liberté de parler, de dire ceci, de dire cela, de décider, nous avons une liberté de consentement, consentir à. C'est là que se vit la réceptivité, et j'insiste pour dire que cet acte de réceptivité, si je puis dire, qu'elle écoute, elle coûte plus que l'action. L'écoute coûte, comme j'aime bien dire. L'écoute coûte, elle demande un engagement de notre liberté beaucoup plus profond que ce que l'on peut penser humainement. Quel est le premier de tous les commandements? Marc 12. Jésus répondit, c'est la question du scribe. Jésus répondit, le premier c'est, qu'est-ce que vous répondez? Oui, tu aimeras, non, mais dans sa marque, c'est, le premier c'est, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Je ne dirais pas que le premier commandement, c'est d'écouter Dieu, mais je dirais que le premier commandement est précédé par un appel à écouter. Et qu'en réalité, si nous n'acceptons pas de lire le début de la phrase, eh bien nous n'arriverons pas à lire le reste, à vivre le reste de la phrase. Hein? C'est-à-dire, écoute d'abord. Laisse-toi pénétrer par ma parole d'amour. C'est moi le Seigneur, le Dieu amour. C'est moi la vérité. Écoute, laisse-toi fasciner par ma beauté et ma gloire, et tu m'aimeras. Reçois et tu pourras donner. Et je dis que ce premier, on peut dire, je ne sais pas si on doit l'appeler commandement, mais quelque part, malgré tout, c'est un commandement primordial qui précède les deux commandements. Encore une fois, il est plus difficile à vivre. C'est à la fois ce qu'il y a de plus simple, ça ne demande rien, on n'a rien à faire, entre guillemets, mais on a à ouvrir notre cœur. Est-ce qu'on a à ouvrir notre cœur? Je me demande même, d'ailleurs. On a à ne pas le fermer. À renoncer à nos résistances. Mais je dirais que la véritable ouverture du cœur à Dieu qui frappe à la porte pour parler, c'est la foi. Et la foi, c'est un don de Dieu. Donc, en réalité, écoute initiale, cette ouverture initiale de notre esprit et notre cœur à Dieu qui parle, elle dépasse nos capacités humaines. Nous avons besoin d'un secours de l'Esprit-Saint, d'une grâce de l'Esprit-Saint, qui est la foi, qui est la base de tout, qui est, comme dit l'Église, le commencement du salut, pour pouvoir écouter vraiment Dieu. C'est pour ça que Jésus, à un moment, dit « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Jean 14. Vous écoutez Dieu, vous écoutez le Père, vous êtes mis à l'école du Père, eh bien, venez vers moi. Écoutez-moi aussi. Vous avez la foi en Dieu le Père, vous l'avez la foi en Dieu, précisément, vous croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi, ouvrez-vous à moi, Ouvrez votre cœur à ma parole, à ce que je suis, et vous connaîtrez le vrai visage de Dieu comme Père. Parce qu'en fait, vous croyez en Dieu, mais vous ne le connaissez pas en tant que Père encore. Vous ne connaissez pas le Père à proprement parler. Donc, toute action humaine, en fait, toute activité, si elle veut être inspirée par l'amour de Dieu et du prochain, qui doit finalement de plus en plus ne former qu'un seul acte d'amour, qu'on appelle la charité, hein, qui nous fait aimer Dieu par-dessus tout et notre prochain pour l'amour de Dieu, toute activité doit être précédée, humaine, doit être précédée par une passivité qui est l'écoute. Et nous pouvons mieux comprendre que le combat premier et le combat le plus profond, et on peut dire, oui, le plus difficile, c'est le combat de la foi. Et en même temps, donc, le combat de l'écoute. Parce que, en réalité, si on comprend bien la parabole, celui qui écoute vraiment, qui se laisse pénétrer par la semence jusqu'au bout, il ne peut pas ne pas aimer. Il ne peut pas ne pas porter de bons fruits. Ce n'est pas possible, pas plus que la terre qui se laisse pénétrer vraiment, une bonne terre. Après, le fruit, ça vient de lui-même. Donc, le problème dans notre vie, c'est pas d'en faire plus, vous savez bien. Le problème dans notre vie, c'est d'écouter plus, d'écouter plus profondément. Parce qu'ensuite, la parole écoutée, elle fait son œuvre, elle est vivante. Et puis aussi, je l'ai resservi en même, hein, c'est qu'à partir du moment où on se laisse toucher vraiment par une parole d'amour, notre âme, elle est féminine. Dès qu'elle se sent vraiment aimée, elle aime. Elle a besoin d'être aimée pour aimer. Elle a besoin de se laisser toucher pour pouvoir répondre à l'amour par l'amour. Dieu est l'époux, il a l'initiative, c'est lui qui parle, c'est lui qui s'offre. Il vient séduire le cœur de l'épouse, et l'épouse que nous sommes face à Dieu, dans la mesure où elle se laisse aimer, elle aimera. Et donc, si nous ne voulons pas aimer Dieu, c'est-à-dire nous livrer à lui, parce qu'on sent bien qu'avec Dieu, ça ne peut pas être un amour mitigé, si on ne veut pas se donner, comme a dit récemment Benoît XVI, radicalement et totalement à Dieu, ben, il ne faut pas l'écouter. Parce que si on l'écoute, on est cuit, entre guillemets. On sait qu'on va craquer. On sait qu'il va gagner notre cœur. Il va nous faire fondre. Il est fondant. Mais il y a beaucoup d'obstacles. Ici, je repense à ce que une personne a confié. Je ne sais pas si elle est présente, mais qui a participé au catéchisme. Vous voyez, ça rapporte au catéchisme. Et alors, j'avais expliqué aux enfants que, justement, pour la première fois, j'ai pu leur dire que le père avait demandé à son fils s'il voulait l'aider à sauver les hommes, s'il voulait bien descendre du ciel. Et que le fils avait accepté, avait dit oui, par amour pour son père, et s'était sacrifié pour nous. Et il y a un enfant qui ensuite, en groupe, a réagi en disant qu'il ne comprenait pas que Jésus, il a fait ça pour lui. Il n'aurait pas dû, parce que ça valait pas la peine. Ben non, c'est pas drôle. Hein. On sent une dévalorisation de la personne, une incapacité à croire qu'il puisse être aimé. Moi, ça m'a beaucoup touché de penser qu'un enfant de 8-9 ans ait pu se dire face à la croix, Jésus, t'aurais pas dû, ça valait pas la peine. À un moment ou à un autre, on se dit, mais c'est de la folie, quoi. On ne fait que répondre mal à cet amour, et puis lui, il va jusqu'au bout, et bon. C'est bien d'être passé par là, mais il ne faut pas en rester là. Et ce que je veux dire, c'est que je pense à cette réaction spontanée d'un cœur d'enfant, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à croire jusqu'au bout qu'il puisse être aimé, qu'il soit aimable, quoi. Digne d'être aimé. Justement, on n'est pas digne, mais on est aimé. Et en plus d'un véritable amour d'amour, c'est-à-dire d'un Dieu qui sent l'amour. Et qu'est-ce qui fait qu'on a tant de mal à ouvrir notre cœur à cette parole d'amour? C'est pas simplement le fait qu'on se juge, qu'on a un jugement négatif sur soi, et qu'on ne se sent pas digne d'être aimé, mais c'est aussi le fait que, à partir du moment où on se laisse toucher par cette parole d'amour, on sait que amour à amour total ne peut que répondre à un amour total. Or, l'amour de Dieu est total. Et donc, on ne peut que se livrer face à cet amour. Et se livrer, ça veut dire perdre la maîtrise de notre vie. On dépend totalement et radicalement et totalement d'un autre. Et qu'au fond, il n'y a qu'une seule, oui, il n'y a qu'une seule réponse à la parole qui tombe, c'est l'abandon total. Un acte d'amour vécu sous la loi de l'abandon total, c'est-à-dire on se retrouve à ne plus désirer que le désir de Dieu, qu'accomplir le désir de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à vivre toute notre vie sur terre comme un esclavage d'amour, si je puis dire, hein? C'est-à-dire totalement à l'écoute du désir du Père, parce qu'on n'a plus envie de cet amour et que c'est cet amour qui nous a pris entièrement. Ben, c'est une question qu'on peut se poser. Alors, nous contemplons cette vérité première. Nous sommes d'abord des êtres d'écoute. Et je me pose la question maintenant, puisque nous parlons de tout ça dans le cadre de une réflexion sur l'évangélisation. Bon, je rencontre quelqu'un. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai rencontré sur un des bancs le long de l'église, là. Ça devient à nouveau bien agréable de dire le chapelet dans le square, enfin, quand il y a du soleil. Et je ne sais pas si c'était à cette occasion ou à une autre, mais en tout cas, je rencontre un homme qui m'appelle, je passe devant lui, il m'appelle en disant « je vous ai déjà vu ». On s'est déjà vu. Moi, je ne me souvenais pas, mais pourquoi pas? Enfin, il est possible que ça n'était qu'une entrée en matière et la personne, voilà, je ne sais plus qu'elle dit, mais à un moment, elle me dit que c'est un homme, hein, elle me dit, voilà, moi, l'amour le plus grand que j'ai vécu, c'était avec un autre homme. Alors, je sais que ça ne se dit pas, mais il savait très bien qu'il parlait avec un curé. Et voilà. Là, on est en situation d'écoute. Une situation d'écoute, c'est un dialogue, qui peut être un dialogue qui évangélise ou qui n'évangélise pas. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler. Personne ne vous lance ça, comme ça. Non. Prompt à écouter, lent à parler. Car la colère de l'homme, l'homosexualité est une tendance objectivement désordonnée, n'accomplit pas la justice de Dieu. Attention. Voyez dans ces paroles de Saint Jacques, premier chapitre, que chacun soit prompt à écouter, on voit bien le primat de l'écoute, lent à parler, car la colère de l'homme, on pourrait, vous voyez, la colère de l'homme face à quelque chose qui est mal, alors, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas ça qui évangélise, hein, on est bien d'accord. C'est pas notre indignation, notre jugement moral, même vécu à un niveau, je dirais, le plus objectif possible. La colère de l'homme, j'ai envie de dire, l'agressivité humaine, notre capacité de répondre au sens de riposter, j'irais même de manière plus large, notre volonté de vaincre, notre vouloir vaincre et, disons, convaincre, notre vouloir vaincre en convaincant, notre vouloir prouver que, notre vouloir avoir raison et remettre l'autre à la raison, à raisonner l'autre, j'ai envie de dire, hein. Tout ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Ouais, ça limite le nombre de paroles à dire dans une journée, hein. Que de fois nous répondons au tac au tac, comme ça, humainement. On dit ça, tac, tac, je riposte. Enfin, on n'a pas de volonté d'agressivité mauvaise, c'est pas ça, c'est qu'on est. Le monde nous habitue tellement à répondre comme ça, on se défend, on se défend en agressant, on riposte, il me dit, ouais. Là c'était de la provoque, comme on dit. Hein? Alors. Bon. Ça nous touche, Puis on répond quoi. Puis en plus on répond selon la doctrine de l'Église, donc il n'y a pas de problème normalement. Mais si, il y a un problème, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est ça le problème. Vous allez me dire, mais on va jusqu'où dans l'écoute? C'est bien, mais enfin il y a un moment, il faut réagir. Ben, il faudrait justement apprendre à ne pas réagir humainement. Il faudrait arriver à fonctionner autrement si on veut évangéliser. C'est sûr que si on parle avec un témoin de Jéhovah, eux, ils réagissent tout de suite, quoi qu'on leur dise comme objection. De toute façon, eux, ils ont la réponse et ils ripostent. Même en prenant des gants, on peut riposter avec beaucoup de douceur apparente, mais on riposte quand même. Donc, ici, à partir de la parabole du semeur, nous pouvons peut-être éclairer une question tout à fait essentielle à l'évangélisation, qui est l'écoute. Un bon évangélisateur, c'est d'abord un bon écoutant. Et vous savez, pour faire une petite parenthèse spot publicitaire, ici sur la paroisse, tous les mois, il va y avoir 48 heures de SOS prière. Le service SOS prière, c'est accueillir des appels, y compris dans la nuit, de gens qui ont des choses à déposer. Et le mot d'ordre, c'est on écoute, on ne conseille pas. On ne rentre pas dans la discussion, à vouloir répondre à l'autre. On écoute sa détresse, même si on voit des choses très difficile à entendre, pas juste, eh bien, on reçoit simplement. Et ce mode de fonctionnement est le fruit d'une expérience. C'est-à-dire, ce qui touche les personnes, c'est la qualité de l'écoute. J'ai envie de dire que la qualité de l'écoute est déjà une évangélisation. Si on était bien convaincu de ça, c'est évident qu'on parlerait moins. D'accord? On est tous d'accord sur le point, mais simplement, comment faire pour descendre dans cette qualité d'écoute qui va nous permettre de trouver la parole juste au moment juste, parce que notre parole viendra comme le fruit de l'écoute, le fruit mûr d'une écoute, selon la parabole du semeur. On écoute et on écoute le temps que ce qu'on écoute est descendu, ça a descendu dans notre cœur et qu'il y a quelque chose qui a germé dans notre cœur et que c'est quelque chose qui a germé, il pousse et qu'il finisse par porter son fruit, qui sera une parole. De penser que dans tout dialogue, nous sommes face à l'autre aussi comme une terre qui reçoit et qui doit rendre une parole face à une parole entendue, c'est un moment où il faut parler quand même. Saint Jacques ne dit pas « soyez prompt, écoutez et parlez pas », non, lent à parler, c'est-à-dire lent de la patience du semeur, du laboureur, vous prenez ce que vous voulez, mais lent de la patience de quelque chose qui relève d'un processus de croissance, de fécondation, de croissance qui se fait dans le temps. Arrêter l'écoute parce qu'on est impatient et qu'on a décidé qu'on avait entendu assez de choses pénibles à entendre et qu'il était temps de réagir, eh bien c'est couper un fruit vert et le donner à manger à l'autre. On n'a pas laissé la semence mûrir. La parole n'est pas prête, n'est pas mûre. Vous allez dire à quel moment on sent que c'est mûr, que ça peut sortir. Habituellement, c'est au moment où on n'a plus envie de parler. Je veux dire qu'on est arrivé dans un état de paix, voyez, et d'accueil qui fait qu'il n'y a plus de tension, que c'est de fait dans la paix, dans l'abandon, dans le lâcher prise comme on dit maintenant, que la parole sort. C'est pour ça que j'ai envie de dire que tant qu'on veut parler, il ne faut pas parler. Vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'on veut parler d'une volonté humaine qui est définitive, greffée sur une volonté propre, une volonté de convaincre, une volonté même d'évangéliser, c'est là que le vouloir évangéliser est piégeant, vous voyez, parce que le vouloir évangéliser, dans ce je veux parler de Dieu à l'autre, je veux, ben, est-ce que cette personne homosexuelle, elle était prête à entendre parler de Dieu? Et on m'a tout de suite dit, moi je suis athée de toute façon. Bon. Donc c'était me lancer un signal clair, écoutez, je n'ai pas envie d'entendre parler de Dieu. Mais en même temps, elle fait de la provoque. Bon. Mais c'est confier en fait une souffrance aussi. Hein. Puis quelque part, elle provoque un prêtre, elle attend quand même une réponse. Vous voyez, tout est en subtilité. Et si je suis là... soit dans un vouloir évangéliser, soit vouloir montrer à l'autre qui se trompe parce que c'est grave, ben je ne peux pas écouter jusqu'au bout, hein, c'est clair. C'est clair que je vais l'interrompre à un moment, je vais dire, écoutez, non, c'est pas ça, vous n'avez pas lu l'évangile, écoutez, voilà. Vous savez... comment on peut être cassant quelquefois avec nos principes. Ce n'est pas que les principes ne sont pas bons. Hein. Moi, je suis pour respecter la loi de l'Église au iota près. Mais il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Et c'est là, à ce niveau-là, vous voyez, dans... notre manière donc notamment de corriger les autres, parce qu'en réalité, dans une journée, on entend tellement de choses qui ne sont pas justes que d'une manière ou d'une autre, on est amené à corriger notre frère. Mais la correction, elle peut être dans un silence. Mais un silence parlant, parce que parlant ne serait-ce que par une souffrance. Rappelez-vous ces situations où quelqu'un vous a dit quelque chose pour se justifier, et au lieu de lui montrer qu'il avait tort de se justifier ainsi, vous répondez ne serait-ce simplement ben, moi je voyais pas les choses comme ça. Par exemple, simplement, vous voyez. Ah, ben, moi j'aurais pas pensé comme ça. Vous voyez, mais justement, vous imposez rien à l'autre. Vous exprimez simplement votre étonnement et votre souffrance face à ce qu'il dit. Puis vous voyez qu'une minute après, l'autre dit: oh, mais c'est pas vraiment ce que je pensais, j'ai pas voulu dire ça. C'est vrai, c'est pas tout à fait juste. Vous lui avez rien dit, mais il a compris. Parce que soit votre silence, soit une petite parole venant du cœur toute simple, a fait plus que 2 heures d'explication avec volonté propre. Et oui, le combat, il est là. Je pourrais vous citer. Je pourrais vous citer à ce sujet-là des paroles de la. De la petite Thérèse. Regardez. Qui avait pris conscience en tant que maîtresse des novices qu'elle ne devait pas chercher à mener la conversation. Vous voyez, de fait qu'on soit dans la volonté propre et non pas dans une écoute réceptive qui fait qu'on se laisse modeler par ce que Dieu nous dit, par ce qu'on entend. Mais je vais préciser ce que ça veut dire. Hein. Mais en tout cas, le fait que l'on sorte d'une attitude d'écoute. Une attitude d'écoute qui est en même temps, forcément, vous le rendez bien compte, une attitude dans laquelle on lâche prise, parce que ce qu'on va dire va dépendre de ce qu'on écoute et non pas de ce qu'on voudrait dire. Et donc à partir du moment où on écoute, on cesse de mener la conversation. On reçoit et on reçoit pas ce qu'on aurait aimé recevoir. On aurait aimé parler de telle chose, la personne ne parle d'autre chose. Si je suis dans une attitude d'écoute, je ne vais pas l'interrompre en disant: écoutez, ça, c'est pas intéressant ce que vous dites, moi je voudrais vous parler d'autre chose. Écoutez la petite Thérèse. Ainsi, quand je parle à une novice, elle est maîtresse des novices, je tâche de le faire en me mortifiant. J'évite de lui adresser des questions qui satisferaient ma curiosité. Si elle commence une chose intéressante, puis passe à une autre qui m'ennuie, sans achever la première, je me garde bien de lui rappeler le sujet qu'elle a laissé de côté. Car il me semble qu'on ne peut faire aucun bien lorsque l'on se recherche soi-même. Mais et on pourrait rajouter, il me semble qu'on ne fait aucun bien quand on agit de soi-même, quand on parle de soi-même, quand on veut mener les choses. Et ici, ça va, vous me suivez? Ici, se pose une question de fond, c'est j'écoute qui? Et je laisse mener par qui? Se laisser mener par l'autre, c'est pas possible. Si on prend les choses humainement parlant. Parce qu'on sait bien qu'il y a plein de gens qui nous mènent en bateau. Et puis surtout, il y a plein de gens qui nous mènent, entre guillemets, sur des chemins tordus, puisqu'ils sont tordus dans leur tête, ils comprennent mal les choses. Et donc, écouter, ça ne veut pas dire absorber et se laisser influencer par ce que l'autre pense. Et cherche à nous faire croire. Ou à nous faire comprendre. À ce moment-là, on change de direction et on change d'avis à chaque conversation. C'est ce que je veux dire. Et ça, ce n'est pas de la douceur, ce n'est pas de l'écoute, c'est de la mollesse. Il y a des gens qui sont influençables, ne sont pas de bons écoutants. En réalité, si on reprend la parabole du semeur, nous n'avons jamais qu'une seule personne à écouter, Dieu. Je redis, nous n'écoutons que Dieu. De toute façon, nous n'avons qu'un seul maître, Dieu. Un seul père, Dieu. Vous savez, on est comme des petits-enfants. Prenez un petit enfant de 2 ans, 3 ans, commence à parler. Et son papa lui dit, écoute, c'est moi que tu écoutes. Tu n'écouteras pas aucun des messieurs qui passeront. S'il est sur la plage, il y a un monsieur qui voudrait t'emmener quelque part. Tu n'écoutes pas la voix des étrangers, tu m'écoutes moi, et moi seul. Voilà, on est comme ça. On n'est pas plus malin qu'un petit enfant de 2 ans, même moins, face à Dieu. Et donc, on n'écoute que notre papa du ciel. Parce que les autres, ben, ils ne sont pas fiables. Vous allez me dire, il y a le pape quand même qui est infaillible. Ben, c'est pour ça que c'est celui que j'écoute le plus. Hein. Mais il n'est pas infaillible en tout et il n'est qu'instrument de Dieu. C'est Dieu qu'on écoute quand on l'écoute, clairement. Et moi, je dirais même que ce que pense Benoît XVI, en réalité, c'est pas ma préoccupation, c'est ce que Dieu me dit à travers lui qui est ma préoccupation. C'est un peu différent. Enfin, quand on a un pape qui est si ami de Dieu que lui, on peut penser que le plus souvent, sa pensée personnelle correspond quand même assez bien à la pensée de Dieu. Même si ce qu'il dit dépassera toujours ce qu'il aurait voulu dire et faire comprendre, parce qu'il est dépassé par l'Esprit Saint qui l'anime. Bon, alors je reviens à cette idée. Je n'écoute que Dieu. Donc quand cette personne qui me dit qu'elle, son grand amour, ça a été avec un homme, me parle, je n'écoute que Dieu. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? La première chose, ça veut dire que je ne suis pas préoccupé d'abord de lui parler. Je ne suis pas préoccupé d'abord de l'écouter même, mais je reste dans un dialogue avec Dieu. Ma vie intime est et doit rester toujours un dialogue avec Dieu. Je suis, même en dialogue avec les autres, toujours en dialogue avec Dieu. Et ça, c'est une question de choix de vie. Ça dépend avec qui vous préférez dialoguer, mais moi, je vous conseille plutôt de rester en dialogue avec Dieu, parce que comme interlocuteur, il n'y a pas mieux. Bon. Que notre vie tout entière puisse être et rester un dialogue avec Dieu, même si quelquefois, de fait, il semble nous parler plutôt sous le mode du silence. Mais les silences de Dieu sont très parlants. Comme avait dit, c'est un SDF qui m'avait dit ça, qu'il m'avait dit, le silence, ça repose et ça instruit. Mais même le silence de Dieu repose et instruit. C'est comme un temps de germination de la lumière. Donc laissez Dieu se taire en nous pour parler plus fort à notre cœur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le premier commandement, c'est tu aimeras Dieu. Et qu'on ne peut pas aimer son prochain en vérité en dehors de ce premier commandement. Et que la première manière de vivre le premier commandement, c'est de l'écouter, notre Dieu. Donc tu écouteras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Et tout le temps. Parce que chaque fois que tu cesses de l'écouter, tu pars de travers. Comme un petit enfant qui cesse de tenir la main de son papa et qui tombe par terre parce qu'il ne sait pas encore marcher. Je reviens à ce dialogue. Personne, je ne la connais pas. Elle me provoque, elle me parle. Mais au-delà de sa provocation, il y a une attente. Elle sait que je suis prêtre. Ou elle voit que pour vous, les gens sentent bien. Vous savez, les gens qui ne sont pas croyants, qui sont censés être loin de Dieu, entre guillemets, parce que je ne dirais pas que cette personne était loin de Dieu, j'en sais rien du tout, moi. Mais les gens, de toute façon, ils sont plus réceptifs et plus sensibles qu'on peut l'imaginer. Et donc, même si on n'a pas une croix autour du cou, d'âme à âme, de cœur à cœur, ils sentent qu'on est habité par Dieu ou pas, et donc on n'a pas trop d'inquiétude à avoir en réalité. Hein? Ils sentent qu'il y a quelque chose. Que deux fois, des gens dans le travail m'ont dit que, alors qu'ils n'avaient jamais parlé de Jésus, qu'au bout d'un certain temps, les gens lui disaient, toi qui connais Jésus, toi qui aimes Jésus. Ça se sent. Donc, je suis dans cette situation-là et je dialogue avec cette personne tout en m'efforçant de rester en dialogue avec Dieu. Comment faire pour écouter Dieu à travers... Écouter ce que me dit Dieu à travers ce que me dit l'autre. Demeurer à l'écoute de Dieu, pas à côté de l'écoute de l'autre. Pas dire, bon, j'écoute d'une oreille l'autre et de l'autre Dieu. Non, c'est pas tout à fait ça. Voyez? C'est j'écoute l'autre des deux oreilles et Dieu des deux oreilles. J'ai envie de dire, j'écoute Dieu en écoutant l'autre. Mais c'est vrai aussi de dire que j'écoute l'autre en écoutant Dieu, évidemment. J'écoute Dieu en écoutant l'autre et j'écoute l'autre en écoutant Dieu. Alors, j'écoute Dieu en écoutant l'autre. On commence par là. Et c'est ça le plus difficile, hein. J'écoute Dieu en écoutant l'autre. Où Dieu parle. Quel est le poste, le lieu où Dieu parle et donc où on peut l'entendre? C'est notre cœur. Dieu parle à mon cœur, mais il parle aussi au cœur de l'autre. Je dirais, il faut que je sois à l'écoute du cœur de l'autre avec mon cœur. Puisqu'il n'y a que mon cœur qui peut percevoir, entendre ce que Dieu murmure au cœur de l'autre. Bon, est-ce que... C'est pas si simple que ça. À certains moments, je peux sentir... Est-ce que je sens... Est-ce que je perçois ce que Dieu murmure au cœur de l'autre? C'est pas dit. moi, une grâce particulière. Mais par contre, je peux, en étant tout à l'écoute de Dieu, je peux écouter ce qui se vit dans le cœur de l'autre, là où Dieu lui parle. Par exemple, je peux sentir que chez cet homme qui me dit ça, il y a une profonde soif d'amour. Quelqu'un qui actuellement est dans un moment dans sa vie où il se pose des questions sur ce qu'est l'amour. D'ailleurs, il m'a dit que c'était le plus grand acte d'amour. Mais j'ai pas de raisonnement, vous voyez, dans ce que je dis là. Je peux dans mon cœur sentir la soif réelle, sentir aussi que, bon, il se dit athée, mais sentir qu'en réalité, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est sûrement qu'il ne voit pas, enfin, c'est sûrement. Ce n'est pas au niveau du raisonnement. On peut sentir, vous voyez, la vérité du cœur de l'autre au-delà de ses paroles. C'est ça. Sentir le combat, sentir ce qui se joue au plus profond du cœur de l'autre, au-delà de ce qu'elle projette à l'extérieur. Alors qu'on puisse en même temps sentir les appels de Dieu pour l'autre, ce que Dieu veut dire à l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que la première chose qui est dans l'écoute, c'est quand même l'écoute de la personne de l'autre, au-delà de ses paroles. On écoute l'autre, on n'écoute pas ce qu'elle dit. On écoute l'autre, on écoute pas ce qu'elle dit, mais on ne s'arrête pas à ce qu'elle dit. On rentre pas dans ce qu'elle dit. Si on rentre dans ce qu'elle dit, on va rentrer dans la discussion, dans le vouloir répondre, dans le vouloir faire. On s'arrête pas à ce qu'elle dit. De toute façon, Jésus a dit, pardonneurs, ils ne savent pas ce qu'ils font, ça veut dire aussi, pardonneurs, ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire, la personne, elle s'exprime nécessairement mal par rapport à ce qu'elle vit dans son cœur. Qui de nous exprime de manière simple, vraie, limpide, ce qu'il vit dans son cœur? Personne. Ou alors, à moins d'être immaculé. Mais sinon, on se connaît mal soi-même aussi. Et on est mauvais juge sur soi. Donc, il faut partir de la base que la personne, ce qu'elle nous dit, ce n'est pas sa vérité profonde. Non pas parce qu'elle serait hypocrite, mais parce qu'elle ne se connaît pas bien elle-même et que de toute façon, cette vérité profonde, elle n'aurait pas la force de l'exprimer face à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et donc, je m'efforce d'être à l'écoute de quelque chose qui se vit dans le cœur de l'autre, là où Dieu lui parle, là où éventuellement il est en lutte avec Dieu, dans le combat de la conversion. Et j'écoute ce quelque chose, donc, que la personne elle-même ne serait pas exprimée, dont elle n'est peut-être pas du tout consciente. Alors vous voyez la différence entre ça et les techniques, entre guillemets, des bons écoutants au niveau psychologique, consiste à dire aider la personne à exprimer ses émotions. Je veux bien. Alors, on reformule, on aide la personne à sortir ses émotions, tout ça, mais ça, c'est au niveau psychique. La personne va sortir sa colère, elle va sortir sa révolte, oui, moi, l'église, l'homosexualité, oui, ah bon, ben pourquoi, votre enfance, ceci, bon, enfin, je veux pas caricaturer, mais on dépasse pas un certain niveau. Qui est le niveau d'une écoute psychologique de la psychologie de l'autre. Je ne dis pas que ce n'est pas un travail qui peut un peu déblayer une écoute psychologique de la psychologie de l'autre, mais il y a un autre niveau, qui est le niveau proprement, je dirais, de l'évangélisateur, du témoin du Christ, qui est d'écouter non pas le psychisme de l'autre, même si cette écoute du cœur intègre tout, mais d'écouter vraiment le cœur de l'autre, ce qui suppose d'ouvrir notre cœur à l'autre. Une écoute du cœur avec le cœur. Et une écoute du cœur de l'autre avec le cœur, ça coûte énormément. Oui. C'est ça que bien des fois on n'a pas la force de vivre, soyons honnêtes. L'écoute du cœur de l'autre, c'est une écoute de sa souffrance intime, c'est une écoute de son combat, c'est une écoute quelque part aussi de son péché, dont on éprouve le mal, la souffrance qui en découle. C'est une écoute, c'est lourd. Le combat de l'autre, c'est lourd. La souffrance intime, c'est lourd. Et accueillir dans son cœur, c'est accepter d'être vulnérable. Donc à ce moment-là, eh bien, on sait bien que ce chemin-là nous conduit à la compassion. Compassion du cœur. Compassion du cœur avec une perception du cœur qui est tout autre chose qu'une pitié humaine. Que, comme on dit maintenant, l'empathie. C'est ça. C'est-à-dire, je me mets en phase avec ce que l'autre exprime de ses émotions au niveau de sa vie psychique. Et en même temps, on me conseille de ne pas aller trop loin dans l'empathie parce qu'on tombe dans le problème d'attachement affectif, de fusion, je ne sais pas quoi encore, enfin, de toutes sortes de choses qui fait que l'écoute va dégénérer et que la personne va... Plusieurs fois j'ai entendu ça à l'hôpital, la recommandation aux infirmières, surtout de ne pas s'engager personnellement, évidemment, dans la relation patient. Ben oui, mais ça, je comprends très bien qu'au niveau humain, on en arrive à faire des recommandations grandes. Moi, j'ai vu à l'Hôtel Dieu un patient qui... Enfin, quand je suis rentré, il n'a pas pu s'en cacher, il y avait un jeu de caresses avec une infirmière. Enfin, c'était une infirmière de l'ancienne clinique où il était. Mais je suppose que ça s'était fait avant dans le cadre du travail. Bon, ben ça, c'est, évidemment, c'est pas top, quoi. C'est pas le lieu. Et on voit bien un chef de personnel demandant à ses infirmières de ne pas trop s'engager dans la relation, parce que sinon... les infirmières en question, surtout que lui, il était condamné à il était en phase terminale, donc après, travail de deuil, alors faut faire venir le psychologue pour le personnel, pour gérer le deuil du patient. Ouais, ça devient très compliqué, l'écoute à ce niveau-là, vous voyez, hein, si elle est vécue dans une sorte d'empathie avec tout le jeu de l'affectivité, on s'en sort plus. Mais remarquez, au niveau de l'évangélisation, vous voyez, des personnes qui ont commencé à évangéliser, vous voyez, mais qui se sont voulu accompagner, hein, et puis évidemment, ils se sont sentis, ils ont été touchés par ce que l'autre leur a confié, parce qu'il leur a confié beaucoup de choses, alors ils donnaient beaucoup de conseils, mais en étant dans un vouloir aider l'autre, vouloir... lui montrer ce qu'il devrait faire, alors on passe des heures à parler le soir, et puis ça se termine au lit. Commencer par les dieux, et puis, excusez-moi, la chute un peu brutale, mais plusieurs témoignages dans ce sens-là, mais de gens bien, vous voyez. Parce qu'on est dans le vouloir sauver l'autre, parce qu'on est dans l'empathie, là, et puis on croit que c'est spirituel. On est en plein jeu affectif. Sur terrain religieux. On est en plein jeu affectif. Les gens ne se rendent pas compte que sous couleur d'apostolat, d'évangélisation, on est en train de nouer des liens affectifs. Alors, dans une communauté comme la communauté de l'Emmanuel, on a quand même compris, je ne veux pas dire assez vite, mais tout de suite, que ne devait accompagner de femmes que d'autres femmes, et des hommes que d'autres hommes. C'est-à-dire dans la communauté de l'Emmanuel, tout membre de la communauté doit être accompagné par un autre membre. Laïque, c'est laïque, laïque. Bon, un laïque est accompagné par un laïque du même sexe. Ce que je viens de vous faire des dessins. Bon. Des questions de prudence. Mais l'accompagnement est censé être spirituel, évidemment. Enfin, on s'est rendu compte qu'un accompagnement spirituel pouvait en cacher un autre. Vous voyez? Bon. Mais ça, c'est... Bon, je fais une petite parenthèse par rapport à ça, pour vous expliquer que l'écoute, si elle est vécue à niveau humain, ben, c'est laisser l'autre se confier, se livrer, s'épancher, et finalement, s'épancher dans nos bras. Donc, à un niveau humain, une écoute humaine, on est obligé de mettre de la distance. Et c'est bon. Une manière de mettre la distance, c'est de se mettre dans un confessionnal pour le prêtre. Ah oui, c'est une bonne distance, hein. Il y a d'autres moyens que la vie nous apprend, mais comme on dit aussi, on se protège. Parce que, vous voyez, comme on disait, c'était un évêque qui nous avait parlé comme ça, à Lourdes. J'avais posé le problème des relations des prêtres avec des femmes qui tournent un peu autour, un peu trop. Elle me disait, nous au séminaire, on a toujours dit, faites attention aux femmes qui pleurent. Si vous ne savez pas pourquoi elles pleurent, elles savent pourquoi. Ben oui, pour toucher le prêtre. Peut-être pas consciemment, mais inconsciemment, il y a un jeu. Donc, je dis ça, c'est pour dire que l'écoute avec le cœur humain, disons avec l'affectivité, ça ne marche pas. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle d'une écoute avec un cœur qui est dans la foi et dans le dialogue avec Dieu et qui n'aime que Dieu d'une certaine manière. Ne faites pas dire que je suis pour une écoute dans laquelle on se laisse mener par l'autre, dans laquelle on se livre totalement à ce que l'autre veut nous dire en l'écoutant pendant des heures au téléphone. Non. Écouter avec le cœur, un cœur à l'écoute de Dieu, ça peut vous dire à certains moments, je ne peux pas vous parler, ça suffit. Être très ferme. Bon. Pas dire qu'on cesse d'écouter, mais on écoute Dieu d'abord. Et Dieu peut nous faire sentir que la personne, elle abuse. Que ce n'est pas lui rendre service que de l'écouter, humainement, de continuer à l'écouter. Vous voyez, donc les choses sont subtiles comme toujours. Subtile et très délicate à vivre dans le concret, parce qu'on peut aussi se durcir, c'est un fait. Moi, quand j'étais jeune prêtre, c'est sûr que je n'osais pas dire non, le plus souvent. Mais je me rends compte que j'aurais dû dire bien des noms que je n'ai pas eu la force de dire. Alors, je disais ça, c'est pour dire que l'écoute du cœur profond, on va dire, si vous voulez, du cœur ouvert à Dieu, qui écoute non pas l'affectivité de l'autre, non pas tout ce qu'elle nous déverse de sa psychologie blessée, mais son cœur profond aussi, qui fait dire à saint Paul, l'homme spirituel juge de tout. Est-ce que c'est ça qui faisait dire à propos d'un saint curé d'Ars qu'il lisait les âmes, il lisait dans les âmes? Une personne me disait que ce n'était pas tout à fait la même chose, qu'on peut dans la compassion sentir le cœur de l'autre, ce qu'il y a dans le cœur de l'autre sans lire dans les âmes. Je ne sais pas s'il y a une distinction réelle entre les deux, mais c'est quand même un peu du même ordre, de lire dans les âmes et de, je veux dire, capter sentir, mais divinement, les sentiments les plus secrets, les pensées les plus secrètes, les desseins cachés du cœur, que Dieu seul sonde, que lui seul scrute les cœurs. Mais on rentre dans ce que Dieu perçoit. On entend ce que Dieu entend. Vous voulez pour dire les choses autrement, en cherchant à entendre que Dieu, on entend ce que Dieu entend ce que Dieu entend du cœur de l'autre, ce que Dieu sait et voit, et nous fait rentrer dans une vision beaucoup plus profonde de ce que l'autre est en train de vivre, et notamment du combat qu'il est en train de mener, des tentations qui sont les siennes, et peut-être aussi des intentions cachées. Par exemple, vous pouvez avoir une personne qui vient à vous pour vous demander pardon. Ça m'est arrivé. Et de sentir que la personne, en fait, elle cherche simplement à renouer la relation, mais elle n'est pas vraiment convertie. Ça m'est arrivé de répondre, écoutez, je sens que vous cherchez à vous justifier encore, et que vous n'êtes pas vraiment converti. La personne me répond, comment vous le savez? Tout. Et puis on arrête la conversation là. Ah oui, si vous voulez. Alors elle dit non, il faut faire de l'écoute, de la relecture, l'écouter pendant 1 heure, vos émotions, vous en êtes. Non, moi je travaille pas à ce niveau-là. En tout cas, si je travaillais à ce niveau-là, j'ouvrirais un cabinet de psychologie, hein, et je me ferais payer 100 euros la demi-heure.
Ouais. Cher.
Voilà. Mais c'est pas mon travail comme prêtre. Et puis c'est pas non plus notre travail en tant que tout simplement disciple de Jésus. Alors je ne vais pas rentrer dans savoir comment une psychothérapeute chrétienne devait vivre son travail, parce qu'elle pourrait y passer l'année, mais une psychothérapeute chrétienne, elle doit aussi écouter avec son cœur profond, tout en se situant sur le terrain de la psychologie de la personne que la personne expose. Mais l'un n'empêche pas l'autre. De toute façon, on est toujours gagnant à écouter avec notre cœur profond de l'autre. Parce que on détecte les vrais combats. Et donc, même si la personne veut rester sur le terrain de ses émotions humaines, et que par exemple, vous visitez une personne qui est malade, elle a besoin de parler, elle va parler de ce qu'elle ressent dans son corps, de ses angoisses, de ça. Vous n'allez pas lui dire, écoutez, moi je ne suis pas venu pour faire le psychologue, j'ai autre chose à entendre. Non, faut l'écouter, c'est pas ça que je voulais dire, hein. Donc il faut l'écouter sur le terrain où elle est, se situer au niveau de sa souffrance physique et psychique. Elle n'est peut-être pas consciente qu'elle a aussi une souffrance, j'ai envie de dire spirituelle, une souffrance de l'âme à proprement parler, une souffrance du cœur profond. En tout cas, vous l'écoutez sur ce terrain-là, vous lui dites que vous comprenez, ben oui, que c'est pas facile d'avoir des escarres, par exemple, de vivre plein de choses qui fait que être hospitalisé pendant des semaines, finit par se. Bon, que deux fois j'ai eu à écouter ça à l'hôpital, donc pendant 10 ans, tout en étant plus que nul en médecine, on finit quand même par comprendre un certain nombre de choses, hein, au niveau de la souffrance physique et psychique. Mais laisser parler l'autre à ce niveau-là et l'écouter dans ce qu'elle dit à ce niveau-là ne signifie pas en rester, devoir en rester à ce niveau-là. Parce que de toute façon, elle a un cœur, elle est appelée à se convertir, elle est appelée à se sanctifier, il y a un appel de Dieu, Dieu lui parle, et c'est son cœur en définitive que je dois écouter. voyez, si dans toutes nos rencontres, on écoutait le cœur de l'autre avec notre cœur, ça changerait complètement la vie. D'abord, ça résoudrait un nombre incroyable de malentendus, d'incompréhensions, qui fait qu'on en reste à ce que l'autre dit, il a dit ça, mais il m'a dit ça, puis il est comme ça, puis son caractère, ben oui, mais son caractère, c'est pas lui, c'est son caractère psychologique. Je vais citer une remarque du père Thomas Philippe. Tu es dans un couvent où, parce que dans certains couvents, il paraît qu'il y a certains religieux qui ont mauvais caractère. Enfin, c'est ce qu'on dit, mais ça n'a jamais été prouvé. Hein. Même dans les presbytères, il paraît qu'il y a des prêtres qui ont mauvais caractère. Mais c'est des on-dit. Hein. Croyez pas tout ce qu'on vous dit, j'espère. Hein. Mais en tout cas, là, il y avait exceptionnellement un religieux qui avait mauvais caractère, et alors les autres religieux le supportaient de moins en moins. Et le père Thomas, je ne sais pas ce qu'il était à l'époque, s'il était maître des novices ou s'il était, en tout cas, il avait une certaine responsabilité. Et à un moment, il a dit à ses frères, écoutez, vous le supportez une ou deux heures dans la journée, essentiellement le temps du repas, hein. Mais lui, il se supporte lui-même 24 heures sur 24. Ben oui, ça a tout de suite mis les pendules à l'heure. Oui. C'est-à-dire, là, vous êtes en train de vous arrêter à son caractère. Oui, il est humainement très difficilement supportable. Mais est-ce que vous pensez à la souffrance qu'il vit dans son cœur? Parce que les gens qui ont mauvais caractère, quelque part, ils savent au fond de leur cœur qu'ils ont mauvais caractère. Non, vous allez me dire non. Si on leur dit qu'ils ont mauvais caractère, ils disent ah, moi, mauvais caractère. Ah, bon. Non, mais entre la réaction psychologique de la personne et ce qu'elle vit au fond de son cœur, il y a un abîme. Personne qui me dit moi, mon plus grand acte d'amour, ça a été avec un homme. Mais dans son cœur, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Est-ce qu'il ne souffre pas de ne pas avoir encore trouvé l'amour? Il dit, moi, j'ai trouvé ça. Alors, moi, j'ai senti que, dans mon cœur, qu'au fond, il me disait ça, mais qu'il n'y croyait pas jusqu'au bout, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il vit dans son cœur? Est-ce que c'est de la désespérance, de la culpabilité? Moi, je dis, là, je devais aller déjeuner, en fait. Moi, je me rappelle, j'étais pressé. Et je ne dirais pas que j'ai vraiment écouté avec son cœur, mais enfin j'ai senti que je devais la fermer. J'ai écouté suffisamment pour sentir que ce n'était pas le moment de faire une leçon de morale. Comme il me demandait ce que j'en pensais, j'ai dit, oh, vous savez, moi, quand j'étais jeune prêtre, j'étais sans Tibériade, où il y avait des gens atteints du sida, mais alors il y en avait beaucoup qui étaient au milieu de l'homosexualité, mais ils sortaient dans des boîtes homosexuelles, et là, moi ce que j'ai entendu, ça ne m'a pas semblé, c'était pas terrible quoi, enfin je ne sais plus quel terme j'ai inventé, mais enfin, c'était des pratiques sadomaso terribles, hein, l'enfer, hein. Bon. Mais je n'ai pas dit ça comme ça évidemment, mais, ouais, des trucs, je n'ose pas vous raconter, bon. Et il me dit, ah, moi j'y suis allé quelques fois, oui, c'est pas bien là. Donc, je pense qu'il a compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire, dans la relation homosexuelle, il y a différents niveaux, quoi. Bon. Mais j'ai senti que... on a trouvé un petit point d'accrochage. Vous voyez, mais au-delà du petit point d'accrochage, le fait qu'il a vu que j'étais pas... que je ne me situe pas au niveau des principes, mais au niveau d'une expérience vécue, que j'avais écouté des personnes homosexuelles, que j'en avais rencontré, tout ça, je me suis dit, bon, ben voilà, peut-être que quand je le rencontrerai à nouveau sur le même banc, il pourra peut-être aller un peu plus loin dans la conversation. Mais je suis sûr, et plus je pense à lui dans mon cœur, plus je pense que c'est quelqu'un qui cherche l'amour avec un grand A. Mais je reviens à cette pensée, l'écoute du cœur de l'autre avec notre cœur, c'est à la fois ce qu'il y a de plus passif, hein, de plus réceptif, on est pure ouverture, et en même temps qui mobilise le plus profondément notre liberté et qui coûte le plus au sens où on va éprouver des choses douloureuses. Encore une fois, c'est le chemin vers la compassion divine. Ce chemin qui nous amène à porter l'autre dans notre cœur, avec ses combats et ses souffrances intimes. Et dans ce porter l'autre dans notre cœur, qui demande en fait beaucoup de force d'amour, hein, tout en étant pure passivité, c'est-à-dire on n'a rien à faire, mais si ce n'est accepter de porter. C'est même pas qu'on porte, mais qu'on veuille porter, mais ça se... Et on a accueilli, en même temps qu'on a écouté le cœur de l'autre, on l'a laissé pénétrer dans notre cœur, on l'a laissé rentrer dans notre cœur, il est là avec son combat. Je dis même pas avec sa souffrance physique et psychique, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus lourd. Il peut y avoir ça, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus lourd. Le plus lourd, le mal le plus grand, le plus lourd à porter, c'est le péché de l'autre. Mais son vrai péché, c'est-à-dire sa non-foi en Dieu, sa désespérance, son enfermement dans la culpabilité, son orgueil, son vrai combat spirituel. Combat spirituel que je vais donc rencontrer quelque part. Je vais me retrouver solidaire de lui dans son combat. Et c'est ça qui est douloureux, qui est difficile. Parce que j'ai moi-même mon propre combat à vivre, mon propre chemin de conversion, puis il y a la conversion de l'autre, et Jésus me demande de porter quelque chose du combat de l'autre pour sa conversion. C'est lourd. C'est lourd, ça m'angoisse, ça m'attriste, j'ai pas envie de porter ça. Et Jésus me le demande, est-ce que tu veux bien prier pour lui, le porter dans ton cœur? C'est lourd, une personne humaine, tant qu'elle est enfant de Dieu, appelée à l'amour et en résistance, comme nous tous, à cet appel. Donc les limites de notre écoute sont aussi les limites de notre compassion, mais de notre compassion divine. Mais vous comprenez bien qu'à ce niveau-là, on n'a pas à limiter soi-même la compassion. En réalité, c'est qu'on n'a plus la force d'aimer. Mais on n'a pas à se dire comme certaines infirmières ou certains psychologues, « Maintenant, je vais plus aller voir tel patient parce que, j'ai trop en empathie avec lui, et puis je sens que ça résonne avec mes propres blessures, et ceci et cela. » Ça, c'est niveau psychique. Hein, on est obligé de mettre des limites, parce qu'on situe la compassion à un niveau trop humain, et là, c'est pas gérable. Mais la compassion divine, en réalité... Moi, j'ai l'impression que Benoît XVI, dans sa relation aux autres, il est dans cette compassion divine, il sent les choses avec une finesse, il se fait tout à tous, il porte énormément. Il a l'impression qu'il n'y a pas de limite à cette compassion en lui. Comme le cœur de Jean-Paul II s'est ouvert de plus en plus à l'humanité tout entière, pour devenir, on a dit, le curé du monde, en fait, comme un père pour tous les hommes qui portent. Là, c'est les limites de notre charité. Mais j'ai remarqué, vous voyez, que si on se situe à ce niveau d'écoute du cœur de l'autre avec notre cœur, on ne donne pas prise à des jeux d'attachement affectif. C'est quand on situe un niveau plus bas, celui de notre affectivité, alors qu'on est touché affectivement par l'affectif de l'autre. Ah, il se met à pleurer, oui, il a vécu ça, tel drame dans sa vie, alors il va s'épancher, et puis on va commencer à lui prendre la main, ah oui, ben je vous comprends, et puis ah ben oui, et puis là, on s'aperçoit qu'après il revient, il nous téléphone, dit mais comment je vais me sortir de là, oh là là, je savais pas qu'il était aussi collant, oh là là, ça a commencé par une belle évangélisation, mais ça maintenant ça dégénère, oh là là. Bon, oui, bah, effectivement, alors après on va voir son psy et puis on lui demande si on n'aurait pas dû prendre quelques mesures de prudence. On était, bah oui, là, vous n'avez pas respecté les règles élémentaires de prudence dans l'écoute, il faut rester à distance, vous comprenez, pas de fusion et tout ça. Ben, oui, ben, je ne suis pas contre, mais je parle d'autre chose. Je suis sûr que vous avez compris. Simplement, cette écoute qui est le commencement de la véritable évangélisation, qui devrait être à l'origine de tout acte d'évangélisation, cette écoute, on a besoin de se ressourcer pour demeurer dans l'écoute de l'autre. J'ai envie de dire qu'à certains moments, on a besoin de ne plus écouter que Dieu parce que lui, il nous redit sa tendresse et son amour, et à ce moment-là, c'est pas nous rapporter l'amour de Dieu, c'est lui qui nous porte. Se laisser porter pour pouvoir continuer à porter les autres. On a besoin d'expérimenter la tendresse de notre Père, que ce soit lui qui nous prenne dans son cœur de Père, qu'on se laisse aimer. Donc des moments pour écouter un Dieu d'amour qui n'est qu'amour et qui ne fait que du bien, et puis des moments pour écouter le cœur de l'homme qui est malade. Et ceux qui ont travaillé dans les hôpitaux savent à quel point un malade c'est lourd à porter. Heureusement parce qu'il n'arrive plus à se porter lui-même. Il y a beaucoup de gens actuellement qui sont lourds à porter parce qu'ils n'arrivent plus à se porter lui-même. Et c'était peut-être le combat le plus lourd, vous voyez, à porter, où la personne présentement n'arrive plus à se porter elle-même, c'est la désespérance. Ouais. Quand vous êtes face à quelqu'un qui, au-delà de ses révoltes, par exemple, par rapport à Dieu, par rapport à l'Église et tout ça, au fond, laisse transparaître à votre cœur son combat profond qui est la désespérance, souvent en même temps avec une culpabilité, un jugement négatif sur lui-même, non-acceptation de ce qu'il est, bon, un non-amour en vérité de lui-même, tout ça. Eh bien ça, moi je trouve qu'en tout cas dans la vie du prêtre, c'est une des choses les plus lourdes à porter. Et quand on sent au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure d'écoute que la personne est toujours autant désespérée malgré le fait qu'on ait prié et tout ça, qu'on ait essayé de l'écouter autant qu'on peut, ben c'est vraiment difficile. Il n'y a pas que des victoires, il peut y avoir des échecs. La liberté de l'autre aussi. Donc vous voyez, on rentre dans le combat spirituel, on doit y rentrer avec les armes spirituelles, et pour ça, on a bien besoin à certains moments de, non pas de prendre de la distance parce qu'il ne faut pas rentrer dans les émotions de l'autre, tout ça comme ce qui se situe à un niveau humain, mais on a besoin de se retrouver à certains moments seul avec Dieu, parce que sinon c'est trop lourd, spirituellement à porter. Et qu'il faut, si je peux dire, je terminerai par là, porter sans vouloir porter, vous voyez ? Porter en se laissant porter. Parce que si on commence à vouloir porter, déjà on est aussi, on est mal. C'est de trop de vouloir porter. En fait, si on écoute vraiment l'autre et qu'on l'accueille dans son cœur, de fait on le porte, mais si on l'écoute avec un cœur qui est dans la foi et l'espérance, c'est Jésus qui le porte en nous en même temps. C'est pas nous qui portons tout, c'est le Christ qui porte tout. Donc il nous donne de porter avec lui, mais il ne faut pas oublier qu'on est porté quand on porte. Et donc pas vouloir porter nous-mêmes. Mais plutôt laisser Jésus porter en nous ce qu'il a apporté en nous. Autrement dit, quelque part, communier à sa souffrance à lui qui porte tout. Et les souffrances que l'on ressent au contact de gens qui sont vraiment mal dans leur cœur, en plein combat, en pleine désespérance, les souffrances qu'on ressent au contact de ces gens-là, eh bien, la souffrance que ça provoque dans notre cœur, ce combat qu'ils vivent, eh bien, tout de suite, le déposer dans le cœur de Jésus. Se décharger sur lui. Pas y repenser, voyez. Pas le ruminer, évidemment. Pas en rajouter en disant oui, vraiment, qu'est-ce qu'il est mal, il va pas bien, oui, ben, si j'avais su, oui, bon. Non, ça c'est de trop. Écoute, elle reste dans le silence, elle reste, on porte. Vous comprenez que la parole est tout à fait juste. La parole mûre qui va toucher son cœur sera le fruit de ce portage, entre guillemets, non, sera le fruit de cette patience avec laquelle nous aurons porté l'autre autant qu'il le fallait jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui sorte de notre cœur, qui soit une lumière pour lui, une parole de vie, une parole forte, et qui sera toujours le fruit de la compassion. Il peut y avoir des personnes que l'on porte comme ça dans notre cœur et dans la prière pendant des mois, pas dire pendant des années, on s'entend qu'on ne peut pas dire grand-chose. Il y a un moment où c'est mûr. Puis si le Seigneur veut parler à la personne à travers un autre canal que nos lèvres à nous, bien, ça sera par un autre canal, on aura fait l'essentiel qui est en réalité de porter. Le travail de fond, c'est de porter. Parce que Dieu nous a sauvés, le Fils de Dieu nous a sauvés en portant le péché du monde. Pas d'abord par sa prédication, mais en acceptant de porter le poids du péché du monde. Donc ce que nous pouvons toujours vivre à travers cet exercice spirituel de l'écoute.